VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 6 juillet 2017, en direct de Washington avec vous, Ekia Badou. Voici les titres. Au Mali, de nouveaux affrontements entre des groupes armés signataires de l'accord de paix ont fait au moins 3 morts dans la région de Kidal. La Cour pénale internationale a jugé que l'Afrique du Sud a manqué à ses obligations et aurait dû arrêter le président soudanais Omar el-Béchir en 2015. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé mercredi soir la libération totale de Benghazi après 3 ans d'intenses combats contre les djihadistes. À la veille de la première rencontre Trump-Poutine au sommet du G20, le président américain a critiqué le comportement déstabilisateur de la Russie. En Centrafrique, double manifestation ce jeudi contre la MINUSCA. À Bombari et à Bria, plusieurs centaines de personnes ont marché pour exiger le départ des contingents mauritaniens et marocains. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
À Bombari, près d'un millier de personnes sont descendues dans la rue pour exiger le départ des casques bleus mauritaniens. Les manifestants accusent ces soldats de brutalité contre des civils non musulmans et d'avoir fourni des équipements militaires aux éléments de l'UPC, l'Unité pour la paix en Centrafrique, un groupe armé majoritairement peul. Ils demandent cependant le maintien des troupes portugaises, congolaises, burundaises et gabonaises qui, selon eux, assurent bien leur mission. La mobilisation a pris fin par la remise d'une liste de revendications aux autorités préfectorales de la Waka afin d'être remise au gouvernement et aux responsables de la MINUSCA. À Bria, par contre, les manifestants étaient estimés à plus de 30 000. Ils exigent eux aussi le départ des soldats marocains qu'ils accusent d'être de connivence avec la faction ex-Silica, responsable en partie des violences dans cette ville. Nous ne comprenons pas cette stigmatisation de certains contingents qui assurent leur mission de manière professionnelle, a réagi Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA. Nous continuerons de travailler avec les autorités et la population pour amener la République centrafricaine vers la paix, a-t-il conclu. Fumansi Pila Bangui, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, des peines allant de 2 ans à la perpétuité ont été prononcées ce jeudi contre 8 militaires accusés de meurtre sur des civils au Kasaï, dans le centre du pays. Le tribunal militaire de Mbujimayi jugeait au total 9 militaires. Le 9e a été acquitté. 2 soldats sont en fuite parmi ceux qui sont condamnés à perpétuité. C'est un nouvel échec pour les accords de paix au Mali. Des affrontements entre des groupes armés signataires de l'accord de paix ont fait au moins 3 morts dans la région de Kidal. Les précisions de notre correspondant Kassim Traoré.
Bientôt un mois qu'il y a une vive tension à l'intérieur de la ville de Kidal. Plusieurs imgades ont vu leurs maisons et lieux de travail saccagés ou brûlés. En plus de cette vive tension entre les différentes communautés, on assiste à des mouvements de convois armés dans la région de Kidal, des provocations et des combats, dont les affrontements armés dans les alentours de Kidal ville et au sud de Agelhok. Même si le bilan n'est pas connu, ces combats entre la SEMA et plateforme ont été meurtriers selon plusieurs témoins, surtout dans la zone d'Agelhok. Ces agissements de la part des mouvements sont d'autant plus condamnables qu'ils font fi de tous les appels que nous n'avons cessé de lancer à leurs dirigeants de faire preuve de sagesse et d'agir avec responsabilité. C'est ce qu'a déclaré Mamad Salet Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de l'AMINUSMA. En tout cas, si ces violences persistent, elles affecteront non seulement la mise en œuvre de l'accord pour la paix, elles profiteront aussi aux terroristes pour gagner davantage de terrain, mais risquent également de saper la confiance entre les partenaires pour la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le mouvement de grève se poursuit chez Petrosi. L'entreprise publique gère l'exploitation, la production et la distribution de gaz et de pétrole ivoirien. En conflit avec leur hiérarchie, une partie des salariés a cessé de travailler depuis jeudi dernier et maintient une grève illimitée. Les salariés dénoncent ainsi une mauvaise gestion de l'entreprise publique. La Cour pénale internationale a jugé que l'Afrique du Sud avait manqué à ses obligations. Il est reproché de ne pas avoir arrêté sur son sol en juin 2015 le président soudanais Omar el-Béchir, poursuivi pour génocide au Darfour. Le point avec Dili Diko.
Le juge Kouno Tarfousser a déclaré que la Chambre a conclu que l'Afrique du Sud n'a pas respecté la requête de la Cour pénale internationale d'arrêter et de remettre Omar el-Béchir et qu'elle a empêché la Cour d'exercer ses fonctions en lien avec les procédures criminelles instituées contre le président soudanais. Les juges ont cependant refusé de renvoyer l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU, qui avait saisi en 2005 la CPI au sujet de la situation au Darfour, ni devant l'Assemblée des États parties au statut de Rome, traité fondateur de la CPI. La procureure Fatou Bensouda peut maintenant décider ou non de faire appel. Omar El-Béchir est visé par deux mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI en 2009 et 2010 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour, une province de l'ouest du Soudan, en proie depuis 2003 à une guerre civile qui a fait 330 000 morts selon l'ONU. Même si les déplacements du président soudanais sont réduits, il continue de voyager dans certains pays sans être inquiété. Khartoum a d'ailleurs annoncé lundi qu'il se rendrait à Moscou pour la première fois en août en réponse à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine.
Depuis mercredi à Madagascar, les douaniers ont commencé une grève illimitée après deux jours de négociations infructueuses avec le gouvernement. Ce bras de fer dure depuis six mois. Les employés des douanes réclament l'équivalent de 42 millions d'euros de primes qu'ils n'ont pas perçues depuis 2013. Ce mouvement de protestation pourrait donc paralyser l'économie de la grande île. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est, a annoncé mercredi soir la libération totale des djihadistes de la ville de Benghazi après plus de trois ans de combats meurtriers. Une victoire pour l'armée libyenne, Salwa Jafari.
C'est vêtu d'un uniforme militaire blanc que le maréchal Haftar a annoncé la nouvelle. Une libération totale, dit-il, après une lutte continue contre le terrorisme et ses agents, qui a duré plus de trois ans. À Benghazi, des scènes de liesse animaient aujourd'hui les artères principales.
Merci aux nobles hommes qui nous ont soutenus, grâce à eux, au général Khalifa Belkacem Haftar, ainsi qu'aux hommes au grand cœur comme Aguila Saleh. Benghazi a été libéré, le reste de la Libye va suivre.
La Libye est livrée au chaos depuis la chute de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi en 2011. Au cours du printemps 2014, le maréchal Haftar avait lancé une opération qu'il a appelée « Dignité » pour reprendre la ville de Benghazi, bastion de la révolution libyenne qui était alors tombée aux mains des djihadistes. Deux autorités se disputent le pouvoir en Libye, un gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale et des autorités non reconnues basées dans l'est du pays auquel est lié le maréchal Haftar.
Au Maroc, une lettre attribuée à Nasser Zefzafi, leader de la contestation populaire dans le nord du Maroc, emprisonné depuis fin mai, suscite la polémique dans le pays. Relayée par la presse marocaine ce jeudi, Zefzafi appelle à garder le caractère pacifique des protestations qui secouent depuis huit mois la région du Rif. Emprisonné à Casablanca, son procès est prévu le 10 juillet dans cette même ville.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La ville allemande d'Hambourg est placée sous haute sécurité. Une manifestation à l'initiative d'une alliance autonome et anticapitaliste pourrait réunir 10 000 participants selon les organisateurs. 20 000 policiers sont mobilisés. Les forces de l'ordre redoutent des violences en marge d'une manifestation d'opposants prévue cette soirée. Le président américain Donald Trump a critiqué le comportement déstabilisateur de la Russie à la veille d'une rencontre programmée avec son homologue russe Vladimir Poutine au sommet du G20 qui se tiendra les 7 et 8 juillet. Tatiana Mousseau.
Donald Trump a déclaré que les États-Unis travaillaient avec leurs alliés pour s'opposer aux actions de la Russie et à son comportement déstabilisateur. Il a également estimé que la Russie avait pu s'immiscer dans l'élection présidentielle de 2016. Des rares critiques du président américain contre la Russie interviennent à la veille de sa toute première rencontre avec Vladimir Poutine pendant le sommet du G20 à Hambourg. Cette rencontre sera observée attentivement par ses pairs, mais aussi aux États-Unis sur fond d'enquête sur l'influence russe dans l'entourage de M. Trump. Washington dit certes vouloir une relation plus constructive avec Moscou, mais les relations sont au plus bas depuis le renforcement des sanctions contre Moscou pour son rôle dans la crise ukrainienne et son soutien au régime syrien. Dans son discours, Trump a brossé une image de l'Occident confronté à des défis existentiels, ceux de défendre notre civilisation contre le terrorisme, la bureaucratie et l'érosion des traditions selon les mêmes extraits.
Le président français Emmanuel Macron a invité son homologue américain et son épouse Mélania à assister au défilé du 14 juillet, fête nationale française. La presse outre-Atlantique ne cesse d'en parler. On y voit une tentative pour le président français de reprendre un dialogue concernant les accords de Paris. Voilà pour le journal. Vous écoutez La Voix de l'Amérique sur VOA Afrique et VOA.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Blanche Sanou.
Un rapport de deux centres britanniques de recherche nous fournit un aperçu de la performance économique du Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et l'Angola. Selon ce rapport, le Kenya a considérablement bénéficié d'une croissance forte de ses partenaires régionaux, comme l'Ouganda qui reçoit 11% des exportations kenyanes en 2016 et 41% vers le continent africain. Kalo, une start-up qui propose de conseiller les agriculteurs sur le prix de vente de leurs céréales. Mise en selle par l'ONG française Rongit et son partenaire ETC Terra au Burkina Faso, la start-up est présente dans 7 pays. Le concept aura permis à plus de 73 000 agriculteurs répartis entre le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal, la Gambie et le Soudan de générer un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros. Au Niger, le lycée professionnel de l'hôtellerie et du tourisme ouvert en 2015 est en pleine restauration. La Banque mondiale devrait injecter 800 millions de francs CFA pour moderniser les équipements et améliorer les niveaux de formation en recrutant des professeurs venus de l'étranger, principalement du Maghreb. Ce lycée unique au Niger a été lancé par un cabinet d'études tunisien.
Avec nous en studio, Yacouba Ouadréogo, bonsoir.
Bonsoir, Ika.
Ta présence nous signale une partie sportive, alors je voudrais juste avoir avec toi ces nouvelles infos sportives.
Tout à fait, Ikea. Alors, les pharaons d'Égypte qui trônent sur le continent africain, la FIFA a dévoilé son traditionnel classement mondial mensuel. Pas de grand changement sur le continent noir pour les trois premiers, avec l'Égypte qui demeure en tête, suivi du Sénégal et de la RD Congo qui éjecte le Cameroun du podium. Les Lions indomptables se retrouvent cinquième derrière la Tunisie, le Nigeria, le Burkina Faso, l'Algérie et le Ghana. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire complète le top 10 sur le plan mondial. L'Allemagne, forte de sa victoire à la Coupe des Confédérations, est en tête du classement. Le Brésil et l'Argentine lui emboîtent le pas.
Et je pense qu'il y a également des rebondissements du côté d'Amiens.
Tout à fait. On a Henri Onyekuru prêté à Anderlecht et Issa Sissoko qui rebondit à Amiens. Après sa brillante saison à Neuppen, Henri Onyekuru a été recruté par Everton, mais l'attaquant nigérian n'évoluera pas chez les Toffees la saison prochaine puisqu'il a été prêté dans la foulée à Anderlecht. Revenu en France l'hiver dernier, Issa Sissoko lui a pu se faire remarquer du côté d'Angers. Le latéral droit en a profité pour continuer l'aventure en Ligue 1. Il s'est engagé avec Amiens, le promu.
Sadio Mané signe son retour après une blessure.
Et tout à fait une bonne nouvelle pour les Sénégalais. L'international Lyon de la Teranga a écarté des pelouses pour une blessure. Avait manqué la fin de saison avec Liverpool. Deux mois après, le meilleur buteur des Reds, 13 buts et meilleur joueur, a retrouvé le camp d'entraînement. Sadio Mané pourrait manquer les premiers matchs amicaux de Liverpool, mais il sera attendu pour les rencontres face à Tamer, Rovers et Wigan Athletic.
Marcel Kittel remporte la 6e étape du Tour de France.
Oui, l'Allemand, le sprinter en vue du début du Tour, s'est imposé lors de cette 6e étape à Troyes, signant du coup son 2e succès depuis le départ. C'est le 11e depuis son premier succès en 2013. Kittel a devancé le champion de France Arnaud Démare au terme de cette étape sans conséquence sur le classement général mené par le Britannique Chris Froome.
Et puis c'est le premier match complet pour Novak Djokovic dans le tournoi de Wimbledon.
Tout à fait, le Serbe a surclassé l'espoir tchèque Adam Pavlasek en 3-7, 6-2, 6-2, 6-1. Il accède ainsi au troisième tour de Wimbledon. Le triple champion de Londres 2011, 2014, 2015 n'avait passé que 40 minutes sur le gazon lors de ses débuts mardi en raison de l'abandon du Slovaque Martin Klizen touché à un mollet.
Merci beaucoup Yacouba Ouadréogo pour cette page sport. Et Kabadou, de nouveau avec vous sur VO Afrique. Nous passons à présent à nos dossiers du jour.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nous passons à présent à nos dossiers du jour. Les attentats suicides des islamistes nigérians de Boko Haram se multiplient ces derniers temps au Cameroun. Depuis samedi, trois localités de la région ont subi des attaques meurtrières. Un reportage de Moki Edwin Kinzinga dans l'extrême nord camerounais avec un récit de Lionel Gaïma.
En une semaine, plusieurs attentats suicides ont frappé les communautés camerounaises de Femeka, Mora et Kerawa, près de la frontière nigériane. Des responsables militaires et le gouverneur de la région affirment que ces attaques ont fait au moins 20 morts, dont 9 kamikazes. D'après Mabouwa Isaac, chef du groupe d'autodéfense de Kerawa, une centaine d'habitants ont fui le village depuis l'attaque samedi dernier.
On a dit « Oh, stoppez-vous ». Les femmes ont commencé à trembler, elles ont commencé à avoir peur. Et puis on a commencé donc à les jeter avec les cailloux et les frontes. Elles s'est blessées, elles s'est fatiguées. Bon, elle aussi, elle-même, elle est en train de détacher. Et puis, certaines de nos camarades sont venues l'arrêter par derrière.
Un adolescent de 17 ans a été arrêté parmi les assaillants et est remis à l'armée camerounaise. Mais deux femmes du groupe ont réussi à se faire exploser, tuant 4 personnes. Les attaques suicides ont repris depuis fin mai. Une augmentation qui a coïncidé avec le mois du Ramadan. Pour les hauts gradés de l'armée, cette recrudescence est aussi liée aux opérations militaires en cours le long de la frontière. Le mois dernier, le général nigérian Lakilio Irabor a pris le commandement d'une force multinationale de 7000 hommes. Depuis, ses troupes ont organisé des raids sur les dernières poches contrôlées par Boko Haram afin d'éradiquer le terrorisme le plus vite possible.
My priority is to build on the successes.
Ma priorité est de bâtir sur le succès, m'assurer que le partenariat qui existe est renforcé et naturellement, comme la menace est dynamique, nous devons trouver des nouveaux moyens pour faire face à ces défis changeants. Pour le commandant des troupes camerounaises au sein de cette force régionale, le général Bouba Dobekreyo, certains kamikazes ont pu s'échapper pendant des raids et entrer au Cameroun déguisés en réfugiés ou comme des personnes déplacées.
Il y a actuellement un afflux massif des réfugiés vers le Cameroun que nous allons conduire au Nigeria avec leur appui. Nous avons récupéré beaucoup de matériel détruit, le dépôt de munitions de Boko Haram, nous avons détruit les véhicules.
Le gouvernement de Yaoundé dit avoir déployé plus de troupes le long de la frontière et fourni plus de matériel de communication au groupe d'autodéfense afin qu'il puisse signaler toute activité suspecte. Le conflit avec Boko Haram a déplacé près de 200 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, dans le nord du Cameroun, qui abrite aussi quelques 75 000 réfugiés nigérians ayant traversé la frontière pour échapper aux violences.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le système éducatif sénégalais est pointé du doigt après le concours général et les épreuves anticipées de philosophie. L'examen de baccalauréat est entaché de soupçons de fraude. Via les réseaux sociaux, les épreuves de français, d'histoire et de géographie se sont retrouvées entre les mains des candidats. De nombreuses interrogations autour de cette affaire. Seydina Abagay.
Au lycée Blaise Diagne de Dakar, les candidats sont désorientés. Sous le couvert de l'anonymat, ils confient leur détresse.
On n'y peut rien, nous sommes des candidats. On nous oblige de faire telle épreuve. Nous, on est là pour faire les épreuves, on n'y peut rien, on attend. Mais carrément, nous sommes perturbés, le fait d'arrêter les examens là et les épreuves. Ah, vraiment, nous sommes découragés, carrément. Nous sommes perturbés parce que nous en L1, vous le connaissez, comme le français, c'est une matière dominante pour nous. Mm-hmm.
Ce candidat avoue avoir eu accès aux épreuves bien avant le début de l'examen.
Pour dire vrai, j'ai été déçu parce que bien avant les épreuves, j'avais appris qu'il y avait une fuite au niveau du français, de l'histoire géo et l'anglais. Donc lorsque je faisais le résumé, le président du jury est venu et par la suite, il a dit qu'on va annuler les épreuves et tout. Mais j'ai peur que cela gâche notre réputation, pour dire vrai. Parce qu'on peut dire, ce gars a eu le bac en 2017, donc les épreuves de 2017 ont été fuitées, donc le bac n'est pas valable. Donc il n'y a pas de valeur.
Pour rétablir la crédibilité du baccalauréat, cette jeune candidate demande la reprise pure et simple de toutes les épreuves.
Je me sens un peu vexée, quoi, vraiment, parce que je ne m'y attendais pas. Je croyais qu'on allait venir faire les épreuves et repartir, quoi, vraiment. Bah, c'est une perte de temps parce qu'on a passé presque des nuits et des nuits à réviser et là, on vient, on nous dit qu'on va reprendre les épreuves. On n'a pas le temps. Par exemple, si on veut aller à l'étranger pour continuer nos études, ils vont nous dire que notre diplôme n'est pas valable parce qu'il y avait fuite. Ça ne nous arrange pas aussi. Faut refaire ça.
En poste depuis 2001, le directeur de l'Office du baccalauréat a déclaré publiquement qu'il ne démissionnera pas malgré ce scandale inédit dans l'organisation du bac. Il a par ailleurs annoncé la reprise des épreuves touchées par les fuites ce lundi 10 juillet 2017. Seydina Abargay, à Dakar, pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Les retombées du 29e sommet de l'Union africaine qui a pris fin mardi dernier en Éthiopie. Autofinancement, gouvernance et jeunesse africaine. L'UA a-t-elle fait des avancées sur ces sujets qui polarisent l'attention depuis des années? Et alors que l'ONU veut passer le témoin à l'UA concernant les opérations de maintien de la paix sur le continent, l'institution panafricaine pourrait-elle relever le défi? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Depuis lundi au Burundi, des employés de la mairie de Bujumbura font payer des frais de stationnement sur les voies publiques aux automobilistes, une nouvelle taxe qui passe mal. Écoutez les réactions à Bujumbura au micro de notre correspondant Christophe Nkurunzinza.
Vers les heures de midi ce mercredi, de nombreux véhicules étaient visibles sur l'avenue de Mission Centre-Ville de Bujumbura, comme dans d'autres avenues fréquentées de la capitale. Des percepteurs en gilet orange se déplaçaient de voiture en voiture pour donner des tickets de 300 et 2000 francs burundais pour des voitures garées sur les chaussées pendant un temps variant entre 1 et 12 heures. Ce conducteur estime que la décision de la mairie vient à point nommé, mais devait être suivie d'autres mesures.
Je pense que d'un côté, c'est très bien. Mais d'un autre côté, il faut voir, l'État a mis cette disposition, mais sans avoir préparé les parkings des particuliers, et ensuite sensibiliser la population. La fluidité de la circulation se remarque automatiquement.
Même constat pour cet artiste qui jadis fut gouverneur d'une province à l'est du Burundi.
À Bujumbura, je ne crois pas que les parkings soient bien aménagés. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signes qui matérialisent les limites, le redimensionnement des routes. Je crois que c'est une opération qui devrait se mener avant qu'on ne pense à la facturation et à faire taxer les gens ces parkings.
Cet autre conducteur de véhicule remarque certaines imperfections à corriger pour que la mesure de payer les parkings soit suivie avec efficacité.
D'abord, il n'y a pas de trottoir pour mettre les véhicules devant les endroits de travail. En même temps, il n'y a pas de sécurité pour ces véhicules. Mais pour le gardiennage, c'est autre chose. Tout cela mérite une correction concertée entre les propriétaires des véhicules et la mairie de Bujumbura.
La gestion des points de stationnement sous les véhicules est confiée à 4 sociétés privées qui ont fait une convention avec la mairie de Bujumbura. Le maire de la ville avait informé que les emplacements de stationnement devaient être signalés par une matérialisation au sol qui confirme que le stationnement est payant. Freddy Mbonima.
La ville de Bujumbura doit s'adapter aux autres villes du monde. Si cette semaine ils ont commencé, c'est pour aussi faire respecter cette recommandation. Et c'est aussi pour que la mairie puisse quand même avoir de l'argent, pouvoir développer différentes entités administratives. Il y a 4 sociétés qui ont gagné et ces sociétés doivent impérativement faire payer ses droits, aussi pouvoir assurer la sécurité de ces véhicules.
Les véhicules immatriculés de l'État, la police, l'armée, les véhicules des missions diplomatiques et des organisations internationales, ainsi que ceux des handicapés, sont exemptés de cette taxe de stationnement. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La première réunion au G20 entre les présidents américains et russes sera suivie de très près. Tous deux ont exprimé leur souhait de restaurer des relations dégradées par l'intervention russe en Ukraine. Par ailleurs, l'enquête en cours sur une ingérence présumée de la Russie au cours de la dernière élection américaine va planer sur cette rencontre. Solange Nimoulissa.
Le premier face-à-face Trump-Poutine aura lieu en marge du sommet G20 à Hambourg en Allemagne. Pour le Kremlin, les deux hommes vont parler de la lutte contre le terrorisme, la Syrie et l'Ukraine. La Maison-Blanche assure de son côté que le président Trump va décider du sujet des discussions, qualifiant la réunion de rencontre bilatérale normale. Stefan Sestanovich du Centre de réflexion Council on Foreign Affairs.
Le président a ses propres impulsions. Il pourra décider d'orienter la réunion vers une direction inattendue. Nous devons être préparés à cela. C'est son style.
Mais l'enquête en cours sur l'ingérence russe en collusion éventuelle avec la campagne de Trump jette une ombre sur les espoirs d'amélioration des relations entre Washington et Moscou. Anna Torbon de l'Institut Hudson.
Tout ce qui va se passer entre Trump et Poutine sera perçu dans ce contexte. Trump a-t-il été trop amical ou essayait-il plutôt d'être ferme avec la Russie pour calmer les critiques? Je pense que toutes ces questions auront des réponses sous peu.
Mais peu de gens s'attendent à ce que Trump soulève la question du piratage informatique russe qui, selon les services de renseignement américains, ont aidé le président américain à se faire élire. Dans les rues de Moscou, les Russes continuent d'espérer qu'après la rencontre des deux leaders, les relations vont s'améliorer. Constantin et Moscovite.
Une telle situation ne peut durer longtemps. On devrait comprendre que sans collaboration, nous n'aurons pas de progrès.
Les dictateurs estiment que toute tentative de coopération sera limitée à la rhétorique. Andrei Kolesnikov du Centre Kargenei de Moscou.
Actuellement, nous ne voyons aucun agenda concret ni des objectifs concrets pour les deux leaders, encore moins une volonté de mise en œuvre de ces objectifs. Poutine semble attendre des gestes de Trump alors que Trump est incapable de gérer ses propres problèmes aux États-Unis. Il ne sait pas quelle attitude prendre vis-à-vis de Poutine, sans objectif, sans volonté, pas de progrès.
Quel que soit le résultat, la rencontre bilatérale constitue une victoire pour le Kremlin, ajoute Kolesnikov. Si elle se passe mal, la Russie en voudra aux États-Unis. Et si tout se passe bien, Poutine s'en attribuera le mérite.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme de la bonne musique comme d'habitude. Et notre sujet de cette semaine, mariage mixte. Rencontre des deux cultures, des avantages et des inconvénients selon vous. Envoyez-nous vos réactions par SMS ou contactez-moi sur ma page Facebook. C'est Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-30-40 ou envoyez un message au WhatsApp ou Viber au 001 703 350 3731. RM Show, c'est ce soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma, à la console, Tien Yuang, à la présentation, Ekia Badou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos programmes sur notre site www.voafrique.com. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à vous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.